21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. La menace russe nous touche. Déclaration ce soir d'Emmanuel Macron. Face à ce monde en danger, rester spectateur serait une folie, dit le président français qui annonce une réunion la semaine prochaine à Paris des chefs d'état-major des États prêts à garantir une future paix en Ukraine. En Syrie, au moins 4 morts lors d'une opération de sécurité à Latakia, ancien fief du président déchu Bachar al-Assad. La situation sécuritaire reste très tendue dans cette zone. En France, près de 10 tonnes de cocaïne saisies au port de Dunkerque. C'est un record, mais les réseaux de trafiquants restent de plus en plus difficiles à appréhender. Et puis du football, la Ligue des Champions et ce match PSG-Liverpool, début de cette rencontre en ce moment au Parc des Princes. On retrouvera Cédric De Oliveira à la fin de cette édition. Emmanuel Macron promet des investissements en matière de défense pour tenir compte de l'évolution des menaces. Le président français s'exprimait ce soir dans une allocution télévisée. Au cœur de ce discours, la guerre en Ukraine et plus largement la situation sécuritaire en Europe. La menace russe est là, dit le chef de l'État. On l'écoute.
La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
La France qui réunira la semaine prochaine à Paris les chefs d'état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine. En attendant, ce soir, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Viktor Orban, le dirigeant hongrois qui n'est pas dans le clan des alliés de Kiev et qui pousse, comme le président américain Donald Trump, à des négociations directes et sans conditions avec le Kremlin. Le président français va tenter de réduire la fracture à la veille d'un sommet crucial. Les Européens qui essayent de trouver une réponse commune au rapprochement entre Washington et Moscou. Un sommet spécial de l'Union européenne doit se tenir demain jeudi à Bruxelles. Le président ukrainien doit y participer. Kiev qui a aussi indiqué aujourd'hui travailler à de nouveau pour parler avec Washington, alors que les États-Unis ont annoncé mettre en pause le partage de renseignements avec l'Ukraine, annonce qui intervient après le gel de l'aide militaire américaine à Kiev. Les Ukrainiens ne pourront donc plus compter sur le précieux renseignement spatial américain dans les combats face aux troupes russes. En Syrie, la situation sécuritaire reste tendue dans les régions côtières, ancien bastion du régime déchu de Bachar al-Assad. Après la fin officielle du processus de réconciliation entre la nouvelle administration et les forces de l'ancien régime, près de 10 000 militaires et agents de sécurité ont refusé de déposer les armes, notamment à Latakia. Une opération sécuritaire a été lancée après la mort de 2 soldats dans une embuscade, entraînant des affrontements qui ont fait au moins 4 morts civiles. Les explications de notre correspondant Mohamed Erami.
Latakia, ancien bastion du clan Assad et de la communauté alaouite, est aujourd'hui sous haute surveillance. De nombreux agents de sécurité et forces spéciales patrouillent dans la ville où des milliers de militaires et agents fidèles à l'ancien régime sont encore en fuite. Face à cette menace, la nouvelle administration syrienne a lancé une vaste opération pour les arrêter et récupérer leurs armes, selon Ismaël Hamdan, responsable sécurité au ministère de l'Intérieur.
Il y a le chef des renseignements aériens et des chefs militaires. Ces derniers continuent de se dissimuler dans ces zones et leur localisation est toujours inconnue. Il est impossible qu'ils se trouvent encore dans l'une des régions côtières et ce sont eux qui organisent des groupes armés qui combattent nos forces de sécurité. Nous essayons de sécuriser la zone ici, mais nous avons besoin de plus de forces de sécurité et nous cherchons à résoudre tous les problèmes de sécurité.
Ces opérations de traque ont entraîné entraîné des affrontements armés dans des zones civiles à Latakia et Tartous. Cette situation a provoqué une vague de peur parmi les habitants, comme l'explique Saïd Alali, originaire de Latakia, rencontré à Damas.
Les privilèges à Latakia sont réservés à un nombre très limité de personnes, principalement celles qui profitaient du régime précédent. Quant aux autres habitants, comme moi, nous n'avons rien à voir avec cela. Donc pourquoi nous font-ils subir cette situation ?
Au cours des trois derniers mois, selon les chiffres officiels, plus de 75 000 personnes ont remis leurs armes et leurs documents officiels à la nouvelle administration syrienne. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
Amnesty International demande une enquête pour crimes de guerre sur les attaques israéliennes contre le secteur de la santé au Liban. Attaques contre des ambulances, des secouristes, des établissements de santé lors de la récente guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a accusé le mouvement chiite libanais d'utiliser des ambulances du Comité islamique de la santé, une association qui lui est affiliée pour transporter combattants et armes, des accusations que le Hezbollah dément. En Indonésie, les autorités tentent de réduire l'intensité des pluies qui s'abattent sur la capitale. De fortes précipitations ont commencé à s'abattre lundi sur Jakarta et ses environs. Une fillette de 3 ans est décédée. Certains quartiers sont paralysés. Les autorités ont donc décidé d'ensemencer les nuages. La technique consiste à injecter du sel ou des produits chimiques pour qu'ils pleuve. Objectif, faire tomber la pluie, oui, mais hors des zones critiques. En France, le pays est face à un tsunami blanc. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, après cette saisie record de drogue dans le port de Dunkerque, dans le nord du pays. 10 tonnes de cocaïne, un record à l'échelle de la France métropolitaine, Baptiste Coulon.
10 tonnes de cocaïne, cela représente 20% des saisies effectuées sur l'ensemble de l'année dernière en France. Un record donc, mais un record à nuancer, car ce type d'opération ne dévoile qu'une infime partie de ce qui circule réellement en France. Et les réseaux de trafiquants de drogue sont de plus en plus difficiles à appréhender, remarque Yann Biziou, maître de conférence spécialiste des politiques publiques des drogues.
Si Rotterdam devient brusquement difficilement accessible, ils iront sur un autre port et ils iront sur des ports plus petit. La Dunkerque, il y a quelques semaines, je crois, c'était le Havre, et quelques mois, c'était Sète. Donc, ils peuvent s'adapter en fonction des circonstances et des besoins pour pouvoir répondre aux dispositifs que l'on va mettre en place pour essayer de les empêcher de nuire.
Des mafias très souples dans leur fonctionnement et désormais l'apparition de réseaux plus petits, des réseaux d'opportunités, explique Yann Biziou.
Des gens qui vont se regrouper ponctuellement pour un coup, en fonction de leurs compétences, de leurs relations, et ensuite, cette organisation elle va se disparaître. Peut-être qu'ils ne se reverront jamais. Peut-être que 6 mois après, ils recommenceront.
Des réseaux plus modestes, mais tout aussi difficiles à appréhender et à infiltrer pour les forces de l'ordre.
Baptiste Coulon, et pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu à la suite de cette saisie à Dunkerque. Du football, à présent, avec la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions et notamment ce match PSG-Liverpool, une rencontre entre deux des équipes les plus performantes d'Europe en ce moment, une rencontre que vous suivez pour nous, Cédric De Oliveira. Le match a débuté il y a 8 minutes maintenant.
Oui, bonsoir, vous tombez bien avec une incursion du Paris Saint-Germain dans la surface de réparation, la frappe à l'instant là de Fabian Ruiz qui ne trouvera pas le cadre, mais voilà, c'est la première occasion de cette rencontre. C'est la 8e minute ici donc au Parc des Princes, alors que pour l'instant, eh bien c'est plutôt équilibré entre les deux formations, même si les Reds de Liverpool ont un peu plus le ballon. Ils font plutôt bien circuler ça face aux Parisiens pour l'instant. Donc à part cette incursion, même si la frappe là de Fabian Ruiz est passée allez 3-4 bons mètres à côté du but d'Alisson, eh bien rien à signaler, alors que vous entendez eh bien les sifflets derrière du Parc des Princes, parce que les Reds mettaient un petit peu trop de temps à rejouer. Le Parc des Princes qui est comble pour cette affiche, alors que le PSG récupère une balle avec Donnarumma maintenant, et ce Paris Saint-Germain qui va tenter en tout cas de déjouer les pronostics, puisque Liverpool c'est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement en Europe. Pour l'instant 0-0 ici au Parc des Princes, alors qu'on approche de la 9e minute de jeu et que les deux équipes jouent ce 8e de finale. Allez, pour l'instant 0-0.
Merci Cédric De Oliveira, on vous retrouvera dans une heure pour faire un point sur ce match. Noté que l'Inter Milan s'est imposé à Feyenoord 2-0.